Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est fait. Joe Biden et Donald Trump ont chacun suffisamment de délégués pour obtenir l'investiture de leurs partis respectifs à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Ce n'est pas une surprise. On savait que ça arriverait avant même que le compte soit bon, dès le Super Tuesday, où une quinzaine d'États américains ont voté pour leur primaire et après lequel la républicaine Nikki Haley a jeté l'éponge. Voilà donc Joe Biden et Donald Trump face à face pour la revanche de l'élection présidentielle de 2020. Washington DC, saison 2, épisode 2. C'est parti.
We have a president who's a great danger to democracy.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington DC.
Joe Biden is a low IQ individual. He is truly the worst and most corrupt president in the history of our country.
Le podcast des médias francophones publics.
I'm Joe Biden, damn proud of it.
I will prevent World War III.
So, are you with me?
Washington DC.
Je suis Guillaume Nodin de RFI, on va parler de ce qui ressemble à s'y méprendre à un duel, presque comme cela se pratiquait au Far West, si l'on se fie au vocabulaire qui est parfois employé, notamment côté républicain. On va en parler avec les correspondants des médias francophones publics installés à Washington.
Bonjour Sonia Dridi pour la RTBF.
Frédéric Arnold pour Radio-Canada.
Sébastien Paour de France Info.
Et Jordan Davis de la RTS qui est en Arizona. Salut Jordan, tu fais quoi dans l'Ouest ?
Bah justement, tu fais bien de parler du Far West. Justement, je suis là parce que Joe Biden est dans le Far West, il est dans le Nevada et ici dans l'Arizona pour relancer sa campagne.
Et on va bien sûr en reparler. Je le disais, Joe Biden face à Donald Trump, ce n'est pas une surprise. Est-ce que vous avez le souvenir d'élections primaires, les élections pour désigner les candidats de chaque parti, qui auraient été jouées aussitôt dans chaque camp, Frédéric? C'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé. Donc c'est un record, je pense, historique. Et vous savez, Donald Trump adore avoir des records historiques.
Je vais faire mon ancienne, mais lors de l'élection 2020, il y a quand même 5 États qui avaient annulé les primaires républicaines parce que clairement c'était joué d'avance pour Donald Trump et il mettait en avant le coût d'une élection primaire. Il y avait notamment le Kansas ou encore l'Arizona où se trouve Jordan et le Nevada. Donc pour Donald Trump c'était quand même un peu plus d'efforts cette année. D'ailleurs on a senti que la présence de Nikki Haley l'embêtait fortement.
C'est vrai que c'est un record et puis c'est aussi une première depuis 1956 qu'on ait un rematch comme ça entre deux candidats qui se sont déjà opposés il y a 4 ans.
Et à l'époque, le président, c'était Dwight D. Eisenhower. Bon, c'est plié mathématiquement et il va bien falloir s'y faire, même si les sondages d'opinion indiquent qu'une majorité d'Américains n'en avaient pas très envie. En revanche, les candidats, eux, étaient manifestement pressés de passer à l'élection générale. Avant même le Super Tuesday, Donald Trump ne parlait même plus de Nikki Haley et le soir même, il expliquait qu'il souhaitait affronter Joe Biden en débat où il veut et quand il veut, hein, avec un langage qui ressemble quand même drôlement à une provocation en duel à la sortie de l'école ou un appel à la bagarre dans une allée discrète.
Quand vous y réfléchissez, l'inflation n'aurait jamais été aussi importante, l'attaque sur Israël n'aurait pas eu lieu, ni la guerre en Ukraine avec la Russie. Biden transforme tout ce qu'il touche en merde.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous surprend ce langage ?
Non, moi ça m'a pas du tout surpris. On a l'habitude de cette rhétorique guerrière, agressive, voire violente de la part de Trump. Il a déjà dit qu'il serait dictateur un jour, il a dit qu'il y aurait un bain de sang s'il n'était pas élu. Enfin, c'est le genre de gars dont on a l'habitude de ce genre de provocation aussi. Moi ce qui me surprend, c'est la manière dont... En 3 ans, il est passé d'un espèce de paria du parti républicain à ce candidat qui s'impose et qui écrase tout. Ça me surprend plus.
Sonia, toi qui as connu le Trump première génération, t'es pas surprise non plus?
Non, pas du tout. Et je pense aussi que ça va être intéressant de voir comment Biden réagit, parce que tu parles de bagarre, de sortie de cours d'école. Il a un petit peu ce côté-là aussi, Biden. Par exemple, il y a 4 ans, lors de la dernière élection, il s'en était pris clairement à un électeur de l'Iowa qui l'accusait d'avoir trouvé un job à son fils dans une compagnie de gaz ukrainienne. Et il avait dit, en gros, tu veux qu'on se retrouve à la sortie pour
pour que je te pète la gueule.
En gros. Donc, c'est sûr que si, je pense que ça va être intéressant, surtout que là, on sent que pour cette élection, Joe Biden, face à Trump, va plus se lâcher, notamment dans le vocabulaire, qu'il y a 4 ans.
Frédéric, c'est vrai que ça fait partie du spectacle d'une campagne.
Oui, en même temps, Donald Trump aime évidemment provoquer, lancer comme ça des discours à l'emporte-pièce, des déclarations incendiaires. C'est une provocation, il veut peut-être une bagarre de ruelle, mais en même temps, Joe Biden n'a pas besoin de ça maintenant. En fait, tout ce qu'il fait, c'est vraiment l'ignorer superbement. Il parle à peine de Donald Trump en général, il ne le nomme pas.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Joe Biden, dans un style différent, il n'est pas en reste. Dans son discours sur l'état de l'Union le 7 mars dernier, qu'on a tous couvert, il s'est montré très offensif contre celui qu'il n'a cessé d'appeler mon prédécesseur, hein, sans jamais le nommer, comme si c'était un petit peu salissant. Par exemple, dès les premières minutes, à propos de l'aide à l'Ukraine.
En ce moment, l'aide à l'Ukraine est bloquée par ceux qui veulent abandonner notre rôle dirigeant dans le monde. Il n'y a pas si longtemps, un président républicain nommé Ronald Reagan s'exclamait « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur !» Aujourd'hui, mon prédécesseur, un ancien président républicain, dit à Poutine, je cite, « Faites bien ce que vous voulez !» Un ancien président des États-Unis a dit ça, s'inclinant devant un chef russe. « Je pense que c'est scandaleux, c'est dangereux et c'est inacceptable !»
Donc l'ambiance n'est pas franchement apaisée, et cela a duré tout le discours, vous avez tous suivi ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il vous a surpris, Biden, ce soir-là, Frédéric?
Mais en fait, les Républicains nous ont tellement préparés à ce que ce soit dévastateur que oui, forcément, il nous a agréablement surpris, parce qu'il était quand même assez animé, il était quand même assez fâché, de Joe Biden, ce soir-là. Donc je pense que les Républicains ont fait deux erreurs de stratégie. D'abord, ils ont dit que ça allait être terrible, alors que là, finalement, le rendu était quand même pas si mal, on voyait quand même assez énergique. Puis le deuxième, c'est que les Républicains ont choisi pour donner la réplique, la riposte à Joe Biden, une obscure sénatrice de l'Alabama, Katie Britt, qui est arrivée après dans sa cuisine, mais dans vraiment une tonalité mortifère. Ça venait complètement, le soufflet était tout à fait très haut avec Biden, et après ça fait comme avec vraiment un discours et une rhétorique qui était quand même un peu dépassée et trop conservatrice.
Comme tant de familles américaines, mon mari Wesley et moi étions dans notre salon pour suivre le discours sur l'état de l'union du président Biden. Notre pays mérite mieux. Biden avait hérité de la frontière la mieux sécurisée de tous les temps. Mais il a arrêté les déportations. Il a stoppé la construction du mur. La politique aux frontières du président Biden est une honte.
Il y a quand même ce qui est génial avec cette républicaine, c'est que tout était fait pour que ce soit justement repris de façon comique, parce qu'elle s'exprimait depuis sa cuisine, on ne peut pas faire plus stéréotypé pour une élue républicaine. Elle a changé d'intonation lors de son discours, dès qu'elle voulait dire, elle chuchotait, puis ensuite elle voulait dire que, attention, l'Amérique en ce moment, ça va très mal, et d'un coup elle élevait la voix, enfin c'était comique. Et les Républicains, je pense, beaucoup d'ailleurs, l'ont dit à demi-mot, se sont plantés en choisissant de faire cette réponse. Mais je voulais juste aussi ajouter que personnellement, j'étais pas surprise avec le discours de Joe Biden, parce que malgré le fait qu'il soit vieux, qu'il soit âgé, parfois ses discours sont excellents, sont très bons, et parfois, comme toute personne âgée, eh bien, il a des moments plus low.
C'est le moment de dire la vérité et d'enterrer les mensonges. Et voici la vérité. Vous ne pouvez aimer les États-Unis seulement quand vous gagnez. Je vois un futur pour tous les Américains, parce que je crois en l'Amérique et je crois en vous, les Américains. Construisons un futur ensemble et rappelons-nous qui nous sommes.
We are the United States of America.
Nous sommes les États-Unis d'Amérique.
Sébastien, Joe Biden, il a été carrément dans le défi avec les Républicains. Il les a interpellés. Ouais, si vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, et ne dites pas le contraire. C'était un petit peu tendu quand même, hein.
C'était tendu, mais la voix était claire, le propos était puissant. Moi, je l'ai trouvé remarquable, ce discours. Je pense que c'est un discours de potentiellement de bascule qui peut faire inverser la courbe des sondages. Enfin, j'ai trouvé qu'il était très très bon, très ironique sur lui-même. Mmh. On sortait de la séquence sur son âge, sur ses lapsus autour de Macron et Mitterrand, du président égyptien et du président mexicain. Il a commencé en disant j'en ai pas l'air, mais je suis là depuis longtemps. Enfin, je l'ai trouvé très bon, vraiment très bon.
Jordan, on va faire appel à l'américain de service que tu es. Le discours sur l'état de l'Union, c'est un discours qui est suivi très au-delà du cercle habituel.
Franchement, c'est effectivement une vitrine politique immense. Toutes les chaînes reprennent, rediffusent ce discours. C'est un événement marquant et ce qui frappe pour moi, c'est justement combien c'était un discours très, très partisan presque. Finalement, Joe Biden, il dit que c'est une période exceptionnelle. Voilà, il compare ce discours à Franklin Roosevelt au moment, en 1941, quand Hitler est en train d'envahir l'Europe. Et il dit aussi la démocratie est non seulement menacée en Europe, la démocratie est menacée aux États-Unis aussi, en parlant justement de Donald Trump, le 6 janvier, etc. Donc là, c'est un discours assez exceptionnel à cet égard.
Washington, D.C.
Et puis donc Joe Biden est parti sur le terrain dans les swing states, les États qui peuvent faire basculer l'élection au mois de novembre, notamment le Wisconsin et le Michigan, où de nombreux électeurs démocrates arabo-musulmans ont marqué leur désaccord avec le soutien à Israël en ne votant pas Joe Biden, mais plutôt uncommitted, sans engagement à la primaire. Il y a eu plus de 100 000 votes uncommitted, alors qu'habituellement c'est plutôt 20 000. Ça veut dire... Sonia, que le message a été reçu par la Maison-Blanche ?
Oui, j'ai envie de dire que le message a enfin été reçu par la Maison-Blanche parce que je pense qu'elle a mis du temps à se rendre compte de cette grosse épine dans le pied pour Joe Biden. Et là, maintenant, ils se rendent compte à quel point c'est un problème. Ce n'est pas seulement les électeurs démocrates arabo-musulmans. On a vraiment vu, et c'est ce qui est assez marquant, je trouve, avec ce qui se passe en ce moment, on voit des jeunes, notamment des Africains-Américains, parfois même des Latinos, qui maintenant mettent le conflit à Gaza comme l'une des priorités des sujets de cette élection.
J'ai voté uncommitted parce que le président Biden ne fait pas ce qu'il faut pour les Palestiniens. Ce qu'il se passe là-bas est incroyable.
Nous voulons un cessez-le-feu et nous voulons que notre président nous écoute.
Frédéric.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des gens donc qui sont en colère contre Biden pour l'instant, contre les démocrates et contre la position vraiment très très pro-Israël. Mais c'est une position qu'on tient pendant les primaires. Et pour avoir parlé à certains de ces électeurs qui sont uncommitted, vous savez, on veut envoyer un message. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là ne seront pas là en novembre pour Biden ? Ça reste à prouver parce que, je veux dire, on s'en va quand même dans une élection qui est assez... primordial, assez incroyable, avec deux positions complètement différentes. C'est juste qu'on veut montrer un peu les crocs. Mais de là à abandonner Biden, ça c'est moins que probable.
Sébastien pour France Info.
D'autant que la Maison-Blanche a clairement revu son message aussi. On parle de cessez-le-feu maintenant à Gaza, dans la bouche de Biden, de Blinken et des autres. On sermonne Netanyahou. Il y a clairement un changement de pied. Donc il y a clairement une prise de position de la Maison-Blanche, un revirement pour, comme tu le dis, pouvoir... bénéficier d'un vote démocrate qui sera plus une comité dans novembre.
Sonia, pour le Super Tuesday, tu es allée en Virginie et tu as rencontré un électeur démocrate à qui cette question pose manifestement un gros problème.
Oui, comme on a dit, il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que ceux issus des minorités. Là, j'ai rencontré John, un ancien avocat à la retraite, 64 ans. Il va voter pour Joe Biden, mais il est quand même bien embêté par ce qu'il se passe à Gaza. Vous allez l'entendre.
In Israel, I think that... Israël, c'est une situation compliquée pour l'administration Biden. Mais ma critique est qu'Israël a reculé publiquement sur la question d'une solution à deux États. Donc, je me demande bien pourquoi. Et avec tous les bombardements horribles qu'il y a à Gaza, la crise humanitaire, en tant qu'Américain, c'est dur de se dire qu'on finance cela ou qu'on soutient tout cela.
Et je précise que c'est lui qui m'en a parlé. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit des démocrates. Et ça fait presque 9 ans que je suis là. C'est la première fois lors d'une élection qu'on me parle autant de politique étrangère, spontanément, de la part des démocrates.
Jordan, pour la RTS, tu es en Arizona où Joe Biden est en déplacement. Ce ne sont pas forcément les mêmes thématiques. Mais là aussi, il y a une volonté d'aller... reconstruire une base, chercher un électorat qui se fait un peu tirer l'oreille.
Oui, Joe Biden, il va lancer sa campagne Latinos con Biden-Harris. Ces électeurs-là représenteraient à peu près un quart de l'électorat tout vote est important ici dans l'Arizona. Joe Biden est passé avec 10 000 voix à peu près dans l'Arizona en 2020. C'était sur 3 500 votes à peu près. Donc là, c'est vraiment, il est passé sur le fil du rasoir. Chaque vote va compter. Et effectivement, il y a beaucoup de questions de démobilisation. Il y a Gaza qui résonne ici aussi. Mais il y a aussi une certaine frustration par rapport à l'approche de Joe Biden par rapport à l'immigration. Il a pris un virage pour plus de fermeté vis-à-vis de la frontière, pour restreindre l'accès à l'asile. Et les démocrates ont finalement abandonné des promesses envers les sans-papiers, par exemple, de normes, de régulariser les sans-papiers qui étaient là depuis longtemps. Donc, il y a un peu de frustration ici. Joe Biden va devoir caresser cet électorat-là dans le sens du poil. Il n'y a pas que l'immigration, bien sûr. Il y a aussi les questions économiques. Donc, Joe Biden doit vraiment essayer de mobiliser une base qui, en ce moment, n'est pas aussi mobilisée, n'est pas aussi remontée qu'elle l'était après 3 ans de Donald Trump, où elle était, franchement, chauffée à blanc.
Une petite remarque, on se demandait si à son âge, Joe Biden pouvait tenir le rythme d'une campagne électorale. Pour l'instant, il tient, et depuis plusieurs semaines, avec des déplacements, soit pour aller lever des fonds, d'ailleurs ça marche bien, soit pour faire des meetings de campagne, des déplacements parfois à l'autre bout du pays, sur 2 ou 3 jours. Pour l'instant, il est là et il fait le boulot, Frédéric.
Ben, il fait le boulot, oui, effectivement, il y a quand même 81 ans, le bonhomme. Je veux dire, il prend plusieurs fois l'avion, il va aux quatre coins des États-Unis, donc c'est quand même un rythme assez soutenu. Est-ce que la campagne qui va arriver dans les prochains mois, est-ce qu'il va être capable justement de soutenir ce rythme-là? Faut dire qu'il a perdu un peu l'entraînement, parce que en 2020, il n'y en avait pas vraiment de campagne à cause de la pandémie, rappelez-vous. Donc c'était un autre rythme, beaucoup plus lent. Donc alors que Donald Trump faisait ses grands rassemblements, alors on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que en même temps, vous savez, l'argent commence à couler à flot aussi pour les démocrates et pour Joe Biden, et ça c'est vraiment un bon signe pour lui malgré tout, même si les sondages ne sont pas très très bons. Mais il reste que chez les républicains, la chanson est bien différente, où on a un Donald Trump qui est en train de brûler tout son argent et tout l'argent que ses ouailles lui donnent pour les frais judiciaires, et c'est pas prêt de terminer. D'ailleurs, il n'est même pas capable d'aller chercher à peu près $500 million pour pouvoir faire appel. Là, il n'est pas capable de trouver une caution. Personne ne veut lui prêter de l'argent, alors qu'il se dit quand même milliardaire. Alors ça commence à mettre beaucoup de pression sur la prochaine campagne. Est-ce que les républicains auront de l'argent pour faire campagne? Jusqu'ici, c'est pas garanti.
Jordan, il y a aussi une question qu'il faut peut-être aborder. Donald Trump, il a mis la main sur la direction nationale du parti républicain et sans doute sur les finances du parti. Est-ce que c'est important?
Oui, bon, en quelque sorte, quand on a un candidat qui est désigné par le parti, il prend la tête du parti de manière ou d'une autre. Donald Trump, quand même, le fait qu'il place, par exemple, sa belle-fille, parmi d'autres proches à la tête du parti, ça interpelle. Et parce que Donald Trump, jusqu'ici, il fait passer ses honoraires d'avocat en frais de campagne en ce moment. Et donc, la question, est-ce que Donald Trump va siphonner beaucoup d'argent, finalement, qui va partir dans ses problèmes judiciaires, alors que cet argent devrait plutôt soutenir les candidats républicains sur le terrain?
Sometimes it's not good to be rich.
Parfois, c'est pas chouette d'être riche. Ce procès m'a déjà coûté 91 millions de dollars. Et tout cela est basé sur une fausse accusation. Pour une histoire inventée, faite par une femme que je n'ai jamais vue. Je ne la connais pas, elle a écrit un bouquin, elle a dit des trucs. Et quand j'ai répliqué et que j'ai dit que c'était faux et fou, j'ai été accusé pour diffamation.
Sur ces questions judiciaires, il y a eu la question de son éligibilité qui a été confirmée par la Cour suprême après une décision venue du Colorado. Où vous êtes allés, Sébastien et Frédéric, dans le cadre de la campagne pour le Super Tuesday? Au départ de l'affaire, il y a des républicains qui ne veulent tout simplement pas entendre parler de Donald Trump et que vous avez rencontré tous les deux, Sébastien.
Oui, séparément, mais on a eu la chance tous les deux avec Frédéric d'aller chez Norma Anderson, qui est l'ancienne élue républicaine. Elle a 91 ans, c'est une républicaine pur jus, elle est fille de républicain. Elle a été élue pendant 20 ans à la Chambre et au Sénat du Colorado. Et elle est l'une des 6 plaignantes à l'origine de cette plainte contre Trump, contre son immunité, qui va être discutée à la Cour suprême à la fin du mois d'avril. Et cette femme, elle est désespérée de voir comment ce type, dit-elle, elle l'affuble de tous les noms, a mis la main sur le Parti républicain, sur ses finances dont on en a parlé, et aujourd'hui s'impose comme le candidat. Elle dit cet homme est antidémocratique, ne peut pas être élu, est indigne de se présenter.
If Donald Trump should win,
Si Donald Trump gagne, notre démocratie est perdue et ça me préoccupe beaucoup. Il est une menace pour la démocratie. Il n'a pas les valeurs nécessaires pour être président. Comme c'est un ami de Poutine, l'Ukraine ne serait plus du tout aidée. Que se passera-t-il si Poutine attaque un pays de l'OTAN ? Où allons-nous avec Trump comme président ? C'est effrayant.
En tout cas, Norma Anderson, elle a deux constitutions, une toujours dans son sac à main, et elle est désespérée de voir Trump à ce point. C'est ce que tu as constaté aussi chez elle, j'imagine.
Oui, exactement. Et c'est vrai que, pour lui avoir parlé, en fait, deux jours avant que la décision de la Cour suprême tombe, elle disait, bon, on a peu de chances de gagner, honnêtement, c'est vrai. Mais en même temps, le combat n'est pas terminé. Et d'ailleurs, je lui dis, mais bon, ben, une fois que la Cour suprême a décidé là-dessus, qu'est-ce que vous espérez ? Mais vous savez, d'ici les élections, là, il y a quelque chose qui va arriver, ce sont des campagnes. Mmh. Et les campagnes, comme on dit ici, campaign matters. Mmh. C'est-à-dire que nous, on va vraiment prendre le bâton de pèlerin. Elle me dit, moi, j'ai des milliers d'adresses e-mail, là, je vais envoyer tout ça, vous allez voir, on va mobiliser cette base pour que ces gens-là n'aillent pas voter pour Donald Trump, ou peut-être même se pincent le nez et votent pour Joe Biden, juste pour empêcher Donald Trump d'accéder au pouvoir suprême aux États-Unis.
Oui, elle doit faire partie des républicains quand même, complètement catastrophé par le fait que Donald Trump mette sa belle-fille. Moi, je veux quand même insister sur le caractère hallucinant, le fait que Lara Trump va être à la tête du parti républicain. C'est l'infiltration du parti républicain partout qui devient le parti de Donald Trump. Et ça donne le ton sur ce que sera une seconde présidence de Donald Trump où il y a quand même no shame. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être de suivre une série, quoi. C'est maintenant la belle-fille qui devient à la tête du parti républicain et c'est quand même un signal très alarmant.
Le vote porte sur l'élection de Lara Trump comme coprésidente du Comité national du Parti républicain. Ceux qui sont pour disent « Hi ». Les contre disent « No ». Les Hi ont gagné. Lara Trump est élue coprésidente du Comité national du Parti républicain.
Je veux être dans ce combat à vos côtés. Je suis prête à me mettre au travail. Let's make America great again. Rendons à l'Amérique sa grandeur et remettons Donald J. Trump à la Maison Blanche.
Thank you guys. Thank you. It's an honor.
Alors donc, Donald Trump se déplace moins, mais alors quand il se déplace, il se déplace pas pour rien. Hein. Il y a quelques jours, il était dans l'Ohio, un état du Midwest qui est devenu au fil des années un solide état républicain. Donald Trump sait encore faire parler de lui avec des déclarations comme celle-ci.
Si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang, au minimum. Un bain de sang pour tout le pays.
Voilà, le bain de sang, c'était à propos de la politique de Joe Biden en faveur des véhicules électriques, mais le choix des mots pose évidemment question. Ses discours sont de plus en plus durs et violents sur tous les sujets. Là donc c'est sur la voiture électrique, mais c'est aussi sur les migrants, sur la situation économique, sur l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Alors on peut toujours aller plus loin, hein, mais là ça va déjà très loin, alors qu'il reste un peu plus de 7 mois de campagne. Vous vous attendez à quoi, Frédéric? Tu t'attends à quoi, toi?
Au pire, je veux dire, ça ne va pas s'améliorer, cette espèce de rhétorique très provocatrice. Mais je ne vois pas, en fait, on se demande où va être la limite à un moment donné. On a l'impression qu'il prend toujours le poteau, il l'installe, et chaque fois qu'il fait un truc, il va toujours plus loin. Donc on déplace cette espèce de poteau de la tolérance. Et ça n'est pas bon signe, à mon avis, pour la campagne qui va être très très belliqueuse et très négative.
Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je m'attends à être surpris, en fait. Je m'attends à... Je sais pas, oui, à ce qu'il aille toujours plus loin, lui, à ce que Biden chute toujours plus, enfin potentiellement, à je ne sais pas, que l'un des deux, pour une raison ou pour une autre, judiciaire ou de santé, soit empêché. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi m'attendre, en tout cas je me garderai bien de tout pronostic.
Jordan, on va pas te demander de pronostic, mais tu sais déjà qu'on n'a jamais vu ça de toute façon.
Non, on est dans de l'inédit. Cette élection, on a l'impression de connaître déjà le film, on a l'impression de rejouer ce qu'on a déjà vu, peut-être en pire d'ailleurs en termes de rhétorique. Et en même temps, on a du mal à croire que ça va vraiment se passer comme ça de nouveau. Ça paraît presque irréel, je pense, pour beaucoup d'Américains. Il y a une sorte de malaise. Et je ne sais pas si cette ambiance-là va changer une fois qu'on arrive dans le dur de la campagne.
Sonia, toi qui as connu les campagnes précédentes, est-ce que tu es surprise toi-même par la tournure des événements ?
Non, mais je suis un peu comme Sébastien, je ne sais plus à quoi m'attendre, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je trouve aussi qu'il y a une atmosphère assez surréelle, surréaliste. Je pense aussi que tout peut arriver, encore une fois, d'ici les conventions, d'ici l'élection. Je ne suis pas sûre qu'on ait les deux candidats d'ici l'élection. Alors voilà, je pense que les Américains, en général, ont le sentiment que tout peut arriver.
Eh bien, on va se laisser surprendre et continuer à suivre ça tous ensemble dans la saison 2 de Washington DC. L'épisode 3, ce sera dans un mois. À bientôt et puis merci à tous. Hein.
Washington DC.
See you.
Salut.
Bye.
Ciao.
Le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.